إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخواتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن أبي المحسن البدر حفظه الله تعالى. وبحمد الله عز وجل قد ذكرنا حوادث مكية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأولى وهي نزول الوحي عليه وبعثته بالرسالة لما بلغ 40 سنة في قول الجمهور. Donc pour suivre بإذن الله عز وجل nos cours concernant le poème Al-Urjouza Al-Mi'iyya du très grand savant Ibn Abi al-Izz Al-Hanafi, avec l'explication du Cheikh Abd al-Razzaq Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Et on a évoqué donc la semaine dernière plusieurs événements, parmi les événements mekwa se déroulant après l'avènement de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit donc le premier événement après la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ici la, bien sûr, la descente de la révélation. Donc premier événement, la descente de la révélation et son envoi, na'am, en tant que messager lorsqu'il a atteint donc 40 ans. Lorsqu'il a atteint donc 40 ans. Non. ثم ذكرنا الحادثة الثانية وهي رمي الجن بشهب. رمي الجن بشهب. وهذا بعد 20 يوما من مبعثه، وهو أمر مشهور عند نقلات السيرة. Le deuxième événement qu'on a cité, c'était le jet des météorites sur les djinns. Et cela s'est passé 20 jours après l'avènement de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم الحادثة الثالثة جهره بالدعوة. Le troisième événement, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler les gens à l'islam de manière ostensible. طيب. De manière ostensible. Naam. Il a commencé donc à faire cela 4 ans après l'avènement de la prophétie. Il a commencé à appeler les gens de manière ostensible, alors qu'avant il faisait, mais clandestinement, en cachette. D'accord? Donc il a commencé à appeler les gens à l'islam de manière visible, 4 ans après la prophétie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadithatu al-rabi'a, hijratu ba'di ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ila al-Habasha. La cinquième année, il y a eu donc l'émigration de certains compagnons du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en Abyssinie. L'immigration de certains compagnons en Abyssinie. Al-hadithatu al-khamisa, islamu Hamzata ibn Abd al-Muttalib. Et enfin, le cinquième événement et dernier événement qu'on avait évoqué la semaine dernière, l'islam de Hamza, de son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib. Hein, lorsque Hamza embrassait l'islam, radiallahu anhu. Aïna. Thumma qala, idhan, المؤلف رحمه الله تعالى وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة وطاهر طيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم وبعد 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانخلا في رمضان أو ربيع الأول والسورة تقرأ أول المنزل ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة ثم دعا في 40 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام وأربع من النساء 12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 80 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد. ثم قال المؤلف الناظم رحمه الله وبعد 90 من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. فهنا قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى ذكر في هذين البيتين وفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه خديجة رضي الله عنهما أو رضي الله عنها. طيب ذكر في هذين البيتين وفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه خديجة رضي الله عنها وكان ذلك في السنة التاسعة. كان ذلك في السنة التاسعة. Donc on poursuit bien Allah Azza wa Jal l'explication donc des deux vers que je viens de lire, inshallah ta'ala, et on verra que ici on a la mention de deux événements. Taïeb. Ce qui fait que ce sont les événements 6 et 7, inshallah ta'ala. Fa al-haditha al-sadisa ya wafatu ammihi Abi Talib ibn Abdul Muttalib. Donc le sixième événement, c'est le décès de son oncle paternel Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Tayyib. Wa as-sabi'a wafatu zawjihi Khadija. Et le septième événement, c'est le décès de son épouse Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Tayyib. Comme il dit ici le cheikh, dans ces deux vers, on a ces deux la mention de ces deux disparitions qui sont celles d'Abu Talib et celles de son épouse Khadija radiyallahu anha. Et il faut savoir que ces deux décès se sont déroulés la même année, c'est-à-dire l'année la 9e année. Se sont déroulés durant la neuvième année, c'est-à-dire après la prophétie, après l'avènement de la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال من سن رسالته أي من مبعثه صلى الله عليه وسلم أي في السنة التاسعة من البعثة. D'accord. Puis donc il dit le poète donc وبعد تسع من سن رسالته. Et après neuf, c'est-à-dire après neuf ans ou neuf ans après les années de son message, c'est-à-dire neuf ans après l'avènement de la prophétie. L'avènement de la prophétie, c'est-à-dire donc l'année 9 de la prophétie. Na'am. ثم قال مات أبو طالب ذو كفالته أي الذي قام على كفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وكان ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرا. Puis il dit l'auteur رحمه الله تعالى أبو طالب est mort. Zou kafalati. Abu Talib, c'était celui qui s'occupait, donc qui était responsable, qui avait la responsabilité de son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Donc c'est celui qui yani s'occupait d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam après la mort de son grand-père, Abdul Muttalib. Et c'était quelqu'un, comme vous savez, Inch'Allah Ta'ala, c'était quelqu'un qui a donc défendu le prophète, alayhi salatu wa salam, et qui l'a soutenu. Bien qu'il soit mort sur le kufr. Donc, malgré sa mécréance, malgré qu'il n'ait pas embrassé l'islam, il a malgré ça, défendu son neveu et il a soutenu. وبعده خديجة توفيت في القول المشهور عند أهل السير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وقيل بل هي توفيت قبله والمشهور الأول وهذان المشفقان هذا في الظاهر أي أبو طالب وهذه في الباطن وهذا كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله عنها وأرضاها. Il dit l'imam Ibn Kathir, d'abord il dit le poète, pardon l'auteur, rahimahullah ta'ala, et après lui, c'est-à-dire après Abu Talib, Khadija est décédée. Khadija décéda après Abu Talib. Ceci est la vie le plus connue chez les biographes et les historiens. Naam. Il dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Bidayat wa Nihaya, il dit chapitre concernant le décès d'Abu Talib, l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et après lui, Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anha wa ardaha. Il dit donc certains biographes exégètes disent également que Khadija serait morte au contraire avant Abu Talib. Donc certains ont divergé. Et on dit que Khadija, elle est décédée avant Abu Talib. Mais ce qui est connu chez la majorité, c'est qu'elle est décédée après Abu Talibin. Donc ces deux personnes-là étaient deux personnes qui avaient énormément de compassion pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc un, en apparence, c'est Abu Talib. De manière apparente, c'est-à-dire qu'il a aidé et qu'il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la seconde, c'est-à-dire Khadija, de manière intime, elle a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier c'est un kafir et la seconde était une croyante très véridique et qui avait foi au message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa radiyallahu anha. Tayyib. قال ابن إسحاق ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة وكانت له وزيرة صدق على ابتلاء كانت له وزيرة صدق على ابتلاء يسكن إليها وبهلك عمه أبي طالب وكان له عضدا وحرزا كان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه وذلك قبل مهاجرته إلى المدينة بثلاث سنين فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. Il dit l'imam Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala. Ensuite, donc Khadija et Abu Talib décédèrent la même année, durant la même année. Et ainsi donc les épreuves se succédèrent sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam à cause donc du décès de Khadija qui était pour lui un soutien sur la vérité lors des épreuves qu'il subissait et donc le prophète sallallahu alayhi wasallam trouvait du réconfort. Un réconfort énorme et très important auprès de son épouse Khadija, radiallahu anha. Donc lorsqu'elle est morte, il a perdu un très grand réconfort. Et également avec la mort de son oncle aussi, Abu Talib, qui était pour lui également un soutien, une défense, une aide contre ses ennemis. Et cela donc, avant bien sûr l'immigration de Nabi sallallahu alayhi wa sallam vers Al-Médina, c'est-à-dire 3 ans avant. Donc ça s'est passé 3 ans avant l'immigration du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Al-Médina. Et donc lorsque Abu Talib il est décédé, il faut savoir que les polythéistes de Quraysh ont accentué leur mal et leur préjudice à l'encontre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait des choses qu'il ne faisait pas au temps du vivant de Abu Talib, parce qu'Abu Talib était encore vivant. Il ne faisait pas certaines choses, mais lorsqu'il décéda, là ils ont commencé à intensifier leur nuisance à l'encontre du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. ثم قال الناظم رحمه الله من بعد أيام ثلاثة مضت لم يختلف أهل العلم بسير أن خديجة رضي الله عنها وأبا طالب مات في عام واحد ولكن اختلفوا في الأسبق وفي المدة التي بين وفاتيهما والمشهور أن خديجة توفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام. قال ابن كثير قال البيحقي بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام ذكره عبد الله ابن منده في كتاب المعرفة وشيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمهم الله أجمعين. بيجي لوتاخ رحمه الله تعالى 3 jours après. Trois jours après, donc il faut savoir que les gens de science n'ont pas divergé, notamment les historiens et les biographes, n'ont pas divergé sur le fait que Khadija et Abu Talib sont morts la même année. Il n'y a pas de divergence sur ça. Vous voyez ? On a dit donc la neuvième année après l'avènement de la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont divergé sur celui qui est mort en premier. Est-ce que c'est Abu Talib qui est mort en premier ou est-ce que c'est Khadija qui est morte en première? D'accord? Donc, ils ont divergé également sur la période entre la mort de Abu Talib et la mort de Khadija. Ce qui est connu chez la majorité des gens de science est que Khadija, radiallahu anha, est décédée après Abu Talib trois jours. Elle est morte 3 jours après Abu Talibin. D'accord? Il dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans Al-Bidayah wa Nihaya, il dit l'imam Al-Bayhaqi a dit qu'il m'a été parvenu que Khadija est décédée après Abu Talib de 3 jours. 3 jours après la mort de Abu Talib. Comme l'a mentionné Abdullah ibn Mandah dans le livre Al-Ma'rifa et notre cheikh Abu Abdullah Al-Hafid. Donc ici, il parle de qui? En disant Abu Abdullah Al-Hafid, il parle de Abu Abdullah Al-Hakim Al-Naysaburi. Al-Hakim Al-Naysaburi. Qui était donc l'un des mashayikh de l'imam Al-Bayhaqi. Et un des élèves également de Abdullah ibn Mandah. Rahmatullahi alayhim. Naam. طيب قال الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى وقع في كلام بعض الإخباريين تسمية هذا العام عام الحزن وهو شيء لا يعرف عند محقق السيرة ولا يناسب مقام الحزن في الشريعة فإن مقام الحزن من المقامات المكروهة المغلوبة لا من المقامات المحمودة المطلوبة ولا يمدح العبد بحزنه ولأبي عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن في بيان هذا ذكره في مدارج السالكين تعقيبا على عد صاحب منازل السائرين منزلة الحزن من منازل السير إلى الله جل وعلا فالعبد يتعوذ منه اجتنابا له Ici, une chose qui est bénéfique, Inch'Allah Ta'ala, est que tu peux entendre dans la bouche de certains conteurs ou de certaines personnes qui te racontent la vie, la biographie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui vont appeler cette année-là, donc l'année dans laquelle Abu Talib et Khadija sont morts, ils vont dire « c'est l'année de la tristesse ». Ça, tu l'entends beaucoup, ils disent que c'est l'année de la tristesse. D'ailleurs, pourquoi? C'est l'année où donc deux personnes importantes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont décédées. Et il dit le cheikh, en vérité, cette expression « l'année de la tristesse » n'est pas une expression qui est connue chez les grands savants, parmi les muhaqqiqin de la biographie, parmi les grands savants qui ont étudié en profondeur, yani, la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont jamais utilisé ce terme-là. Et il faut savoir également que ce terme-là, l'année de la tristesse, ne convient pas, dit le cheikh Al-Usaymi, hafidhahullah, ne convient pas. Pourquoi? Parce que la position de tristesse dans la charia, ici, n'est pas convenable. Hein? La position de tristesse dans la charia n'est pas convenable. L'état de tristesse fait partie des états qui sont détestables et qui font partie des états des gens qui sont vaincus, faibles et impuissants. D'ailleurs, l'état de tristesse ne fait pas partie des états louables ou souhaitables dans la charia, dans la législation d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et on ne peut louer, on ne louera pas un serviteur en raison de sa tristesse, de la tristesse qu'il ressentirait. Vous voyez, c'est pour cela d'ailleurs que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dans son commentaire de Manazil al-Sa'irin, dans une annotation, une remarque qu'il a faite dans son livre Madarij al-Salikin au sujet d'une des paroles de l'auteur de Manazil al-Sa'irin concernant le fait que la position de tristesse ou l'état de tristesse ferait partie des états qui te mènent vers Allah tabarak wa ta'ala. Il a exposé donc ce qu'on vient de dire, le fait que cela ne fait pas partie des états qui sont louables et qui sont honorables chez la personne. Au contraire, cela fait partie des choses qui sont détestables et qui font partie des états qui montrent que la personne elle est faible et ainsi de suite. Voyez, donc il dit que le serviteur, la créature, elle doit au contraire demander protection contre justement le fait d'être triste, de ressentir de la tristesse, et elle ne doit pas rechercher cet état-là en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui octroyer la tristesse. Là, voyez, c'est pour cela que l'appellation donc de cette année-là dans laquelle Khadija est décédée ainsi que Abu Talib, on ne l'appelle pas l'année de la tristesse, comme le feraient certains ou comme le font certains. On ne l'appelle pas comme ça. Taïeb, Aïna. Thumma, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, وبعد خمسين وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما نعم فبعد خمسين من مولده عليه الصلاة والسلام وربع أي وربع عام وهو ثلاثة أشهر أسلم جن نصيبين أي أسلم جن نصيبين بعد خمسين عاما وثلاثة أشهر من عمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم في كتب السيرة. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala après 50, c'est-à-dire après 50 années ou 50 années après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque le prophète il a eu 50 ans et un quart de quoi? Un quart d'une année. Et un quart d'une année, c'est combien? 3 mois. Un quart d'une année, c'est 3 mois. D'accord? Donc, il dit 50 ans et 3 mois après la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aslama jinn nasibin. Il a dit ici les djinns de Nasibin. Et Nasibin, qu'est-ce que c'est? On le verra après, inshallah ta'ala, c'est une ville. C'est une terre, d'accord? Donc les djinns originaires de Nasibin ont embrassé l'islam. C'est-à-dire donc, on a dit 50 ans et 3 mois après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un groupe de djinns originaires de Nasibin ont embrassé l'islam comme l'ont mentionné les gens de science dans les livres de Sira, dans les livres de biographie. قال ابن الجوزي رحمه الله في صفة صفوة فلما أتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا وجاء في ألفية السيرة للحافظ العراقي رحمه الله وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه يسعون جن نصيبين له وكان يقرأ في صلاته قرآنا بنخلة فاستمعوا وأسلموا ورجعوا فأنذروا قومهم. Donc il dit l'imam Ibn al-Jawzi dans son livre Sifatu Safwa, il dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a eu 50 ans et 3 mois, un groupe de djinn originaires de Nasibin sont allés à sa rencontre et ont embrassé l'islam. Al-Hafiz al-Iraqi, rahimahullah également, dans son livre, son poème Al-Fiyatu al-Sira, il a dit, et après 50 et le quart d'une année, c'est-à-dire 3 mois, ils sont arrivés, c'est-à-dire les djinns, hein, les djinns de Nasibin, auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en train de réciter dans sa prière le Coran, Binakhlatin, un endroit appelé la vallée de Nakhla. Ils ont alors écouté attentivement et ont embrassé l'islam. Et puis sont retournés auprès auprès de leur peuple, yani des djinns, et ils ont averti leur peuple de la religion, du message de Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa kana dhalika ba'da khurujihi sallallahu alayhi wa sallam ila Ta'if. Qala Ibn Kathir fi tafsirihi وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهم عليه فذكر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء الحسن اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخره قال فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الآيات من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين. Donc, cela s'est passé après que le prophète était sorti vers la ville de Taïf, afin d'appeler les gens à l'islam. Hein? Comme l'a dit l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, il a dit Muhammad Ibn Ishaq a évoqué selon Yazid Ibn Ruman, selon Muhammad Ibn Ka'b al-Quradi, l'histoire, l'anecdote de la sortie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, à Taif. Et le fait qu'il ait invité, qu'il ait appelé les gens de Taif à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'ils aient refusé de répondre à son appel. Et donc il a cité l'anecdote, l'histoire dans sa longueur, et il a évoqué également la dua qui aurait été faite, hein, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que ce hadith, sa chaîne de transmission n'est pas yani, authentique, n'est pas forte, hein? Donc il aurait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, je me plains à toi, auprès de toi, de la faiblesse de ma force et de mon ou du manque de savoir-faire, hein? Je me plains auprès de toi de la faiblesse de ma force et du manque de mon savoir-faire, jusqu'à la fin de la dua. Et donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté Taif, hein, il a quitté les gens de Taif, il est parti passer la nuit à la vallée de Nakhla, un endroit qu'on appelle la vallée de Nakhla. Et arrivé là-bas, donc il a lu ces versets-là du Coran, et les djinns sont arrivés et ils ont écouté attentivement yani, les paroles d'Allah tabarak wa ta'ala, des djinns qui faisait donc partie de la tribu de Nasibin, hein, de la ville de Nasibin. Naam. Voyez, fa Nasibin bi fath an-nun balda bayna Turquie wa Syrie. Il faut savoir que Nasibin aujourd'hui, c'est une ville qui se trouve entre la Turquie et la Syrie. D'accord, c'est une terre qui se trouve entre la Turquie et la Syrie. D'accord ? Donc les djinns venaient de là-bas, de cet endroit-là qu'on appelle Nasibin. وَعَادُوا فَعْلَمَا أَيْ عَادُوا لِأَهْلِهِمْ مُنذِرِينَ وَدُعَاةً إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للإنس والجن كافة. Puis dit l'imam الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: وَعَادُوا فَعْلَمَا. Donc, ils sont revenus par la suite, et sache. C'est-à-dire, ils sont retournés vers leur peuple, en tant qu'avertisseurs, pour avertir leur peuple du message d'Allah tabarak wa ta'ala, et afin de les appeler au monothéisme, afin de les appeler à l'unicisation d'Allah tabarak wa ta'ala. comme il dit Allah Jalla wa Ala dans le sens rapproché du verset Sourat Al-Ahqaf. Rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseur, en tant qu'avertisseur. Donc ceci nous fait comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé non seulement pour les humains, mais aussi pour les djinns. Hein? Il a été envoyé pour tous les humains, mais aussi pour tous les djinns. طيب فقال الشيخ العصيمي رحمه الله تعالى واتفق لقاء هؤلاء الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة وهو يصلي بأصحاب صلاة الفجر يصلي بأصحابه صلاة الفجر وثبت ذلك في صحيح مسلم فإن الجن لما حبست بشهب عن السماء ابتغت خبر ذلك فوجهت منها وفودا ف التقى الوفد النبي صلى الله عليه وسلم ببطن النخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر عامدا إلى سوق عكاظ فسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به على ما ذكره الله جل وعلا فيقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ثم ذكر ذلك في سورة الجن. Il dit, le cheikh Al-Usaymi, rahimahullah ta'ala, il dit, donc la rencontre des djinns avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est déroulée à cet endroit-là, appelé la vallée de Nakhla. Et il était en train de prier, en fait, avec ses compagnons, la prière d'Al-Fajr. Il était en train de prier Al-Fajr, comme cela a été rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et donc, les djinns, avant cela, on avait dit, que Allah tabarak wa ta'ala avait envoyé énormément de météorites pour les empêcher justement de voler la révélation ou une partie de la révélation descendue sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ciel. Et donc lorsqu'ils ont été empêchés d'écouter, eh bien ils ont voulu en savoir plus sur cette révélation qu'Allah Jalla wa'ala leur a empêché d'écouter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des troupes de djinns. Ils ont envoyé des troupes de djinns vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, un groupe de djinns est arrivé donc, à la rencontre d'un nabi sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit-là, appelé l'endroit de la vallée de Nakhla. Et il était en train de prier avec ses compagnons la salat al-fajr. Et il se rendait avec ses compagnons, ils se rendaient yani, vers le marché de Ukaz, un marché qui s'appelle Sour Ukaz. Voyez. Et donc ils sont arrivés, les compagnons et le prophète étaient en train de prier, et ils ont écouté le Coran. Ils ont écouté le Coran yani, de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont embrassé l'islam. Ils ont cru, hein, ils ont, la foi est entrée en eux, et ils ont cru au message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah jalla wa ala l'a mentionné. Hein, dans la surat, Al-Ahqaf, rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistèrent à sa lecture, ils disent « Écoutez » ou ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en tant qu'avertisseurs. Et également, Allah Jalla wa Ala a mentionné cela dans la surat, Al-Jinn. Inch'Allah ta'ala, naktafi bihadha al-qadr. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, bi'inillah. Donc, pour résumer, on a cité ici combien d'événements en tout?
14.
Non, aujourd'hui. On a cité 3 événements aujourd'hui. On a cité la mort de Abu Talib, la mort de Khadija et l'islam des djinns de Nasibin. D'accord? L'islam des djinns de Nasibin. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.